dernière, on avait commencé seulement à voir cette question-là. On a fait la remarque qu'il n'y a plus beaucoup de cours, donc on ne peut pas trop s'attarder. C'est sûr que la distinction entre la personne de la femme et de l'homme, c'est sûrement la première diversité. Et c'est la plus profonde. Parce qu'elle se retrouvera dans toutes les autres personnalités. Si on regarde la personnalité du philosophe, la personnalité de l'artiste, la personnalité de l'homme du gouvernement, vous retrouvez toujours cette distinction homme et femme. Il y a des pays qui aiment mieux être dirigés par des femmes. Il y a des pays qui sont dirigés, au contraire, par des hommes. Et ça fait, à l'égard de chacun de ces pays, des très grandes diversités. Ce serait très, très intéressant de voir ça. Quand le gouvernement politique est confié à une femme, à une reine, quand le gouvernement politique est donné à un président de la République et qu'une femme soit présidente de la République. C'est très cru. Mais la reine mère, mais au fond, ça ne pose pas de question parce que c'est la mère. La royauté étant liée non pas à une élection, mais à une famille. Donc il y a l'aspect familial qui joue. Et on retrouve dans son gouvernement une note familiale. Et quand le gouvernement devient plus intellectuel, plus idéologique, le gouvernement passe beaucoup plus aux hommes. Et alors, je crois que on le sent. Alors, la dernière remarque que je fais, c'est celle-ci qui était restée. J'entends très souvent cette phrase. Pour aimer, il faut se laisser aimer. Mais comment aimer de personnes qui nous aiment d'un amour qui ne s'arrête pas à la bienveillance ? Auxquels nous ne pouvons pas répondre parce que sensiblement il n'y a rien à leur égard. Qu'elles aient des qualités, qu'elles soient belles, qu'elles soient sympathiques, cela ne suffit pas pour les aimer d'un amour d'amitié. Très vrai, l'amour d'amitié regarde la personne. C'est pour ça qu'au fond il y a si peu d'amour d'amitié. De véritable amour d'amitié. Parce que ça atteint la personne. Et c'est pour ça que l'amour d'amitié est au-delà de la sympathie ou la facilité. Il y a des personnes qui sont faciles à vivre. Et il y a des personnes qui sont très difficiles à vivre. Et l'amitié est au-dessus de ça. Parce que ça, c'est encore un caractère particulier. Alors, je sais que l'amour est au-delà du sensible. Mais un amour de raison, ou de pure charité, n'est pas la même chose qu'un amour de raison ou de charité accompagné d'affection. Vous voyez, d'abord, l'affectus, c'est quelque chose, mais j'ai du mal à croire dans la gratuité dans l'amour. J'ai du mal à croire dans la gratuité de l'amour, car À mon avis, même l'amour divin demande une réponse de notre part. La réponse ne va pas contre la gratuité. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on oppose gratuité. Quand nous répondons à l'amour de Dieu pour nous reste gratuite. Mais la réponse, c'est pour avoir un cœur qui s'ouvre à l'amour et non pas une résistance. Et non, une limite. Pourriez-vous nous parler de la gratuité de l'amour de Dieu ou en Dieu, où Dieu ne désire-t-il pas être aimé de ses créatures? Comment une personne pourrait-elle aimer une autre gratuitement sans attendre quoi que ce soit en retour? Cela me paraît illusion. Alors, il y a beaucoup d'illusions en Dieu. La vérité de l'amour ne vient pas de la réponse de l'autre. Là, vous avez l'impression de faire que la vérité de l'amour dépend de l'agréable. On peut aimer vraiment quelqu'un qui vous abandonne et qui n'a pas été fidèle. Il cherchera des excuses en disant ça, parce que tu ne m'as pas vraiment reçu et c'est pour ça que je t'abandonne. Mais si l'amour est vraiment gratuite, mais justement le propre de la gratuité, c'est d'être un amour pur qui n'attend rien de l'autre et qui aime et qui l'aime parce qu'il l'aime. La raison de l'amour n'est pas autre chose que l'amour. C'est le propre de l'amour du ressort, parce que l'amour est premier. Il n'y a rien au-dessus de l'amour. S'il y avait quelque chose au-dessus de l'amour, ce quelque chose pourrait être condition de l'amour gratuite. Mais parler de la gratuité de l'amour, c'est rappeler que l'amour a justement ce caractère particulier d'être premier, d'être supérieur à tout. Celui qui aime, aime. Il est très heureux que l'autre réponde. Et alors, à partir de cette réponse de l'autre, cet amour qu'il a pourra se transformer en un amour d'amitié. Un amour d'amitié, c'est lorsque l'autre répond. Parce qu'autrement, vous ne pouvez plus. Il y a quelque chose de premier, c'est l'amour gratuit. C'est pour ça que supprimer la gratuité de l'amour, mais c'est supprimer l'amour. Du fait que l'amour est premier, il est gratuit. Si vous comprenez que l'amour est supérieur à toutes les autres passions, que l'amour, au point de vue profond, spirituel, est supérieur à toutes les autres opérations spirituelles, vous touchez à la gratuité de l'amour. L'amour gratuit, c'est aimer pour aimer. Aimer pour aimer, c'est-à-dire, c'est reconnaître que l'amour a sa propre valeur en lui-même. Et il ne cherche pas sa grandeur dans la réponse de l'autre. Il aime. Mais enfin, quand on a aimé, on sent très bien ça. On est très heureux que l'autre réponde, mais on l'aime. Et c'est très profond de parler de la gratuité de l'amour. C'est montrer que l'amour se suffit. Puisque par l'amour, nous touchons la finalité. Et il n'y a pas quelque chose d'au-dessus de la finalité. La finalité est ultime. Donc le bien attire et suscite l'amour. Et le bien suscite l'amour parce qu'il est le bien. Il y a l'attraction du bien qui suscite l'amour. Et c'est quelque chose de fondamental. C'est commandé par rien d'autre. Aimer quelqu'un parce qu'il faut l'aimer, ce n'est pas l'amour gratuit. C'est la faiblesse de Kant. L'impératif catégorique n'est pas premier. La grande supériorité de l'Aristote, même au point de vue purement humain et psychologique, c'est qu'Aristote considère que c'est le bonheur qui finalise toute ma vie. Donc c'est le bien qui suscite l'amour. Et rien n'est au-dessus du bien. D'avoir découvert que la finalité est cause des causes, ah, ça, c'est énorme. C'est toute une philosophie, ça. Et vous avez diamétralement opposé la philosophie de Sartre. C'est celle qui est la plus opposée. Parce que c'est le néant qui est premier. Oui, la gratuité du non-être. Sartre, c'est ça, c'est la gratuité du non-être. Et le non-être est premier. Et vous voyez pourquoi ? Avant d'être, vous êtes non-être. Donc, en vous, en la créature, le non-être est premier. Mais ça, c'est en face de l'amour divin. Je peux seul le considérer qu'il n'y a qu'en face de Dieu que le néant est premier. Parce qu'il y a Dieu. C'est pas le néant qui est premier, c'est Dieu. Là, il oublie. Ça, c'est la laïcisation de la théologie. Et il n'y a rien de plus terrible que la laïcisation de la théologie. Parce que ça fait le primat de la négation. Pour la connaissance de Dieu, ce qui est premier, c'est la négation. Mais c'est la négation parce que j'affirme que Dieu est. Donc il y a l'affirmation première, Dieu existe. Donc Dieu existe, il existe d'une telle manière qu'aucune créature ne me montre l'existence de Dieu. Donc la négation est première, mais ayant affirmé qu'il existe. Vous voyez, le sophisme est là. Là, je crois que ça c'est quand même très important, ça. C'est très important de comprendre ce qu'est l'amour. L'amour a en lui-même sa propre raison d'être. Il n'a pas besoin d'un autre pour pouvoir être légitime d'exister. Ça explique comment on mettra l'amour au-dessus de tout. On dira, oh, c'est pas la peine de regarder le bien ou le mal, j'aime. Et vous aurez ce raisonnement-là chez les gens qui aiment d'une manière qui n'est pas juste. Ils se donneront bonne conscience en disant qu'ils aiment. Alors, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit comme ça, j'aime, et on ne peut pas changer ça, qu'est-ce que vous ferez ? Quand cet amour, dans votre point de vue chrétien, n'est pas juste, et quelqu'un qui vous répond, j'aime, il y a quelque chose très radicalement qui est juste. L'amour est à lui-même sa propre justification. L'amour n'a pas besoin d'avoir une autre justification que lui-même. Alors, vous allez tout de suite répondre, alors vous acceptez tout amour. Puisque l'amour n'a pas d'autre justification que l'amour. Qu'est-ce qui va justifier l'amour? L'amour. Alors, voyons tout de suite, l'amour est suscité par le bien. Mais avez donc, avant l'amour, le bien. Et vous retrouvez la fameuse distinction d'Aristote, qui est si capitale, energeia en telegeia. L'acte peut être pris dans son immanence, puisque rien n'est au-dessus de l'acte. Mais l'acte se comprend de deux façons. L'acte immanent, c'est l'opération. Et l'objet de l'opération, qui est la fin. Donc, quand vous dites « j'aime », et vous dites toujours que l'amour n'a pas d'autre justification que l'amour, donc tout amour est au-dessus du point de vue légitime ou pas légitime, j'aime. L'amour est mon absolu. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit ça, et ça arrive, hein. C'est pas de la blague, hein. Ça arrive. Et il y a quelque chose de juste, du reste. C'est pas un imbécile qui vous dit ça. C'est quelqu'un qui est pris par l'amour. Et qui n'arrive pas à se dépêtrer. Alors, vous comprendrez que l'amour en vous, c'est un acte. Vous aimez. Et cet amour est spécifié par un bien. Et ce bien est avant l'amour. Et parce que ce bien est avant l'amour, vous pouvez justifier votre amour en fonction de ce bien. Si vous aimez un bien illégitime, vous êtes marié et vous aimez follement 10 ans après le mariage, quelqu'un d'autre. Alors, le premier amour pâlit et au bout d'un certain temps disparaît complètement. C'est le pain quotidien, ça. On voit ça tout le temps. Et vous aurez en face de vous quelqu'un qui sera entièrement pris par cet amour. Alors vous répondrez, oh très bien, tu aimes, c'est très bien, tu aimes. L'amour se corrigera par l'amour. Donc vous acceptez le drame. Et vous acceptez quelque chose qui n'est pas légitime. Alors vous analyserez calmement, d'où vient cet amour? Cet amour, il prend tout. C'est le premier amour a disparu. Et vous n'avez pas entretenu l'amour. L'amour est la fleur la plus délicate de notre cœur. Et donc, si on n'entretient pas l'amour, l'amour s'éteint par lui-même. L'amour, on doit veiller sur l'amour. Et entretenir l'amour, c'est-à-dire le rajeunir tout le temps. On aime quelqu'un, cette personne, on l'a choisi, et on l'a choisi en face de Dieu pour que ce soit la personne qu'on aime. On doit entretenir l'amour, parce qu'on en est maître. C'est notre un acte de nous. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. C'est la chose principale. Vous voyez, la correction de dans l'Apocalypse des églises, l'église d'Éphèse, le premier amour, tu l'as perdu. Tu n'as plus ce premier amour. Et c'est comme ça que le premier amour disparaît et qu'un autre amour vient. Il y a d'abord l'amour premier qui disparaît. Et là, on en est responsable. Vous êtes responsable de tous les amours de votre cœur. Vous êtes responsable de ça. En sachant si cet amour est légitime, pas légitime. Si cet amour peut tout prendre, vous devez tout le temps mesurer. C'est l'objet de l'amour. L'amour est relatif à quelqu'un. Et vous devez voir si cet amour premier est bien. S'il est bien et s'il est ce qu'il doit être, vous le nourrissez, vous l'entretenez comme la perle de vos yeux, la chose la plus importante de toute votre vie. Et c'est vrai, c'est la chose la plus importante de toute sa vie. Parce que quand on aime, on est responsable de celui qu'on aime. Forcément. Et donc, c'est par l'amour qu'on est responsable des autres. Alors, si cet amour n'est pas entretenu comme il doit l'être et comme il devrait l'être, un autre amour prend la place. Et cet autre amour prenant la place n'est pas légitime puisqu'il a chassé l'autre et que l'autre était légitime. Oui. Il faut voir que l'amour en lui-même finalise tout, mais que pour nous, ce n'est pas l'amour, c'est tel amour. Et c'est ce tel amour qui est légitime ou pas légitime. Autrement dit, la raison même d'amour est absolue. Mais le mode particulier de tel amour, lui, est bon ou mauvais. Vous voyez, c'est pas commode, hein, avoir la distinction entre la ratio boni qui suscite en moi l'amour et le mode particulier de l'amour. Et ce second amour, hein, concrètement, les jeunes se marient, ils s'aiment follement. Puis quand ils vieillissent, il y a autre chose. et cette autre chose peut être beaucoup meilleure que le premier, en absolu. Mais comme ils sont liés à ce premier amour, ils doivent être fidèles à ce premier amour. Pour nous, c'est la même chose, si vous voulez. Par nos vœux, nous sommes liés à Dieu de telle manière. On rencontre telle autre chose. Est-ce qu'on a le droit de se délier? Est-ce qu'on est lié? Ou on doit tout simplement dire, c'est très bien, Dieu l'a voulu comme ça. C'est la très grosse difficulté qu'il y a. Donc, vous êtes engagé dans une voie. Et puis, il y a autre chose qui se présente. Alors, est-ce que vous êtes encore fidèle en regardant cette autre chose? Ou est-ce que vous devez, vis-à-vis de cette autre chose, avoir le courage de dire, non, ma fidélité, c'est là. Cette autre chose, elle est relative pour moi. Elle est relative pour moi parce que je suis déjà engagé. Si je n'étais pas engagé, elle serait très bien absolue. Mais c'est au fond ce point de vue-là qui est très très important. Alors, voyez, comment une personne pourrait-elle aimer une autre gratuitement sans attendre quoi que ce soit en retour? Cela me paraît une illusion. Mais c'est justement attendre le retour qui est une illusion. C'est pas le premier amour. Le premier amour, l'amour comme tel, n'attend pas de retour. Autrement, il n'y aura aucune liberté. Vous commanderiez à votre ami, il doit vous aimer puisque vous l'aimez. Ah, pas du tout. Votre amour, si votre amour est légitime, si votre amour est vrai, mais il est gratuit. Et quand vous aimez l'ami, quand vous aimez l'autre, qui n'est pas encore votre ami, quand vous aimez l'autre, gratuitement, vous l'aimez gratuitement, vous n'êtes pas... Parce que je t'aime, tu dois m'aimer. Et cette raison de dire, parce que je t'aime, tu dois m'aimer, est-ce que c'est légitime? Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que je t'aime, tu es parfaitement libre. Je t'ai aimé librement, gratuitement, et je comprends que tu ne peux m'aimer que gratuitement. Si tu ne m'aimes pas gratuitement, non, il vaut mieux passer son chemin. Ce n'est pas une illusion. L'amour ne devient pas véritablement un véritable amour en fonction de la réponse de l'autre. Il est en lui-même amour. Ce serait trop facile de mettre toujours l'erreur sur le voisin. C'est pas l'autre qui répond qui légitime mon amour. Non. Je réponds gratuitement. C'est très important ça, parce que ça montre que la causalité finale est donc l'amour à l'égard du bien, à l'égard de la fin, et implique cet absolu d'être premier. Qu'est-ce qui est gratuit? Qu'est-ce qui est gratuit? C'est ce qui ne dépend de rien d'autre. Dès que vous dépendez d'un autre, c'est plus gratuit. Ça dépend de rien d'autre. Donc, c'est le caractère caractéristique de ce qui est premier. Ce qui est premier est gratuit. Dieu m'a créé librement, gratuitement. Il n'y avait rien avant. Il a créé mon âme gratuitement. Il ne va pas créer mon âme parce que mon corps était particulièrement beau. Non, il a créé mon âme gratuitement. Dès que Dieu crée quelque chose, il le crée gratuitement. Ça fait partie de la création, ça. Parce que l'activité de la création est première, donc elle est gratuite. Oui, Sartre a cherché toute sa vie la gratuité. Mais comme il n'acceptait pas le premier, il ne pouvait pas comprendre la gratuité. Vous êtes aimé gratuitement par quelqu'un. Vous répondez à son amour gratuitement. Si vous ne répondez pas gratuitement, je réponds à ton amour parce que tu m'aimes. Ah, est-ce que c'est une raison suffisante? Je réponds à ton amour parce que tu m'aimes. Donc je t'aime parce que tu m'aimes. Est-ce que c'est légitime? L'amour est quelque chose de tellement grand qu'il est tout au premier. Alors, celui qui dit ça, je t'aime parce que tu m'aimes. Qu'est-ce que vous répondrez? Non, alors tu ne m'aimes pas moi-même, mais tu m'aimes parce que je t'aime. Et donc, c'est pas l'amour. Oui, ça, c'est au fond très très important de saisir l'absolu de l'amour. L'amour demande pour être lui-même et d'être parfait, d'être premier. Et dans l'amour d'amitié, très souvent, ça arrive. On est bon, on n'est pas mauvais. Alors on voit quelqu'un qui vous aime follement, qui vous dit, donc je t'aime parce que tu m'aimes. Non, c'est pas ça. Ça peut être palliatif, attendons. Hein, parce que tu m'aimes beaucoup, moi je veux bien, tu peux venir. T'aimes parce que tu m'aimes, donc je suis parce que tu m'aimes, je t'écoute. Oui, c'est pas la même chose. Je t'écoute, je t'aime, c'est pas la même. Je t'écoute, ça veut dire oui, je vais voir hein, au fond. Alors, première distinction. Pourriez-vous parler de la gratuité de l'amour de Dieu? Dieu nous aime toujours gratuitement, puisqu'il est le premier qui nous aime. Ou en Dieu, Dieu ne désire-t-il pas être aimé de ses créatures? Dieu désire que ses créatures l'aiment, mais qu'elles l'aiment, que les créatures aiment vraiment Dieu. Parce qu'il est bon. J'aime Dieu à cause de son infinie bonté. J'aime le Christ à cause de son infinie bonté en lui-même. Vous ne pouvez pas dire j'aime Dieu parce qu'il m'aime. Ben, ça peut être une raison, un motif. Je dirais plutôt ça peut être un motif. Ça vous a éveillé, dire aux gens auxquels on prêche, Dieu vous aime chacun en particulier. Bon, ça éveille quelque chose. Et donc ça devient un motif d'être éveillé à l'égard de l'amour de Dieu et de voir que l'amour de Dieu est tout à fait premier. Que Dieu vraiment m'aime. c'est bouleversant. Mais il faut découvrir ce qu'est Dieu pour l'aimer gratuitement. L'affectus, c'est quelque chose, c'est évident, l'affectus, c'est quelque chose. J'ai du mal à croire dans la gratuité de l'amour. Car, à mon avis, même l'amour divin demande une réponse d'autre part. Que l'amour divin demande une réponse d'autre part, c'est sûr. Dieu nous aime tellement qu'il sait que notre seul bonheur, c'est de l'aimer. Donc Dieu attend de nous notre réponse parce qu'il nous aime. Ce n'est pas notre réponse qui fait que l'amour de Dieu est valide et gratuite. Non. L'amour de Dieu a en lui-même sa gratuité. Je sais que l'amour est au-delà du sensible, mais un amour de raison, alors là, vous oubliez, à la place de la raison, il y a l'intelligence. Vous voyez, je sais, c'est l'objection, je sais que l'amour est au-delà du sensible, mais un amour de raison ou de pure charité n'est pas la même chose qu'un amour de raison ou de charité accompagné d'affectus. Attention, ce n'est pas la raison, c'est l'intelligence. Ce n'est pas la même chose du tout. La raison n'a rien à voir avec l'amour. La raison, c'est logique. Et vous répondez à la raison par la logique, pas par l'amour. Mais mon intelligence ne se ramène pas à la raison. Mon intelligence est capable de soutenir un amour gratuit. C'est l'intelligence qui soutient l'amour. Le sensible en est la conséquence ou la disposition. C'est ou la disposition, parce que le regard de quelqu'un, c'est sensible. Ça peut très bien être. C'est un vieux permette qui dit ça. C'est toujours le regard des novices entre eux qu'il faut regarder. Parce que c'est le regard qui suscite des amitiés. Bon, c'est très vrai, le regard suscite des amitiés, indisposition. Donc le sensible dispose, mais le sensible ne caractérise pas le véritable amour. Mon amour est vrai parce qu'il est sensible. Non, c'est pas vrai ça. Mon amour est vrai en lui-même et par lui-même. Et le sensible vient permettre à l'amour de se communiquer. C'est le sensible qui permet la communication d'amour, mais il n'est pas l'amour. Et quand je reste uniquement sensible, je reste dans la communication de l'amour. Et donc, ce n'est pas encore l'amour. Et ça, c'est vrai. Il faut arriver à distinguer l'amour et le sensible. Et l'amour spirituel existe sans sensible. Peut exister sans sensible. Il est structuré en lui-même. Parce que ce serait terrible ça. Au fond, ça voudrait dire que je ne peux aimer que si j'aime sensiblement. Alors voyez, la chose effrayante, parce que l'amour de Dieu, il y a des moments où je ne sens rien. Alors je n'aimerais plus, pas du tout. Je dois aimer Dieu en lui-même, pour lui-même. Et non pas parce que Dieu se rend sensible à moi. C'est une façon de parler. Hein. Il faut s'ouvrir à l'amour, se laisser aimer. Bon, c'est vrai que l'amour de quelqu'un pour moi peut susciter en moi un amour. Mais cet amour qu'il suscite en moi, c'est une réponse à son amour. Mais son amour ne dépend pas de ma réponse. Il existe en lui-même. Et c'est la qualité de l'amour spirituel d'être gratuit parce qu'il est premier, il attend. Et il n'existe pas à cause de la réponse. Il existe par lui-même. Oui, c'est toujours la même. L'amour humain n'est pas un mystère. C'est trop facilement dire oh, c'est un mystère. Mais non, c'est pas un mystère l'amour. C'est une expérience intérieure. Il faut la comprendre. Il faut saisir ce qu'elle est. C'est une chose essentielle. Je ne peux pas faire de philosophie morale sans avoir l'expérience de l'amour. C'est pour ça qu'Aristote dit qu'on ne peut faire la morale qu'à partir d'un certain âge. C'est juste. Le gosse, il n'aime pas beaucoup. Il faut à ce moment-là commander. Et c'est pas l'amour commander. Mais l'amour, quand on est plus âgé, quand on agit. On arrive à assez vite, du reste, 17, 18 ans, on est capable d'aimer. Et d'aimer vraiment. Et de comprendre que l'amour existe même sans retour. C'est dans ce sens-là que l'amour peut être source de mal, peut être source de souffrance, quand il n'y a pas de retour. Mais ce n'est pas le retour qui fait que cet amour, que mon amour gratuite, ne sera pas un véritable amour. Il ne sera pas une amitié. Une amitié, c'est un amour où il y a réponse.